Mardi 2 avril, j'espère que tout va bien pour vous. Il est midi. Le journal de midi présenté par Sylvie Charbonnier. Bonjour Sylvie.
Bonjour, bonjour Laurent, bonjour à tous.
L'info, c'est tout d'abord une belle image, la rencontre de deux géants.
Le roi Pelé et le prince Mbappé, ils se rencontrent aujourd'hui, c'est à Paris que ça se passe, en fin de journée, on ne sait pas encore exactement à quel endroit, on va vous dire tout ce que l'on sait. Le foot toujours, mais du côté obscur de la force, les violences dans le sport, c'est le thème d'un débat aujourd'hui à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, en présence de la ministre des Sports. C'est la semaine du don de moelle osseuse, la 14e du genre, la moelle osseuse, qui peut permettre de sauver des malades atteints de leucémie. Un prélèvement sans danger, mais qui continue de faire peur. On va voir ça dans ce journal. Ce sera donc la belle image, vous savez, les belles photos qui vont tourner en boucle sur les réseaux sociaux. La rencontre très symbolique du roi Pelé et du petit prince Mbappé, l'ancien champion du monde et le nouveau. C'est Hublot, l'horloger suisse dont les deux stars sont les ambassadeurs, qui a organisé la rencontre et ce sera à Paris, dans un grand palace parisien, Frédéric Chapuis.
Oui, et ce sera une grande première entre les deux hommes, 58 ans d'écart. Les premiers contacts entre Pelé et Mbappé remontent à la dernière Coupe du Monde en Russie. Le Brésilien fait l'éloge du jeune attaquant français sur les réseaux sociaux. Si Kylian continue d'égaler mes records, je vais devoir rechausser mes crampons. Héritier désigné, le Parisien répond un brin gêné. Le roi restera toujours roi. Pelé, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Pelé, seul joueur effectivement aux trois Coupes du Monde, et Mbappé ont en commun la précocité, la légende remporte son premier mondial à 17 ans, Mbappé à 19 ans. Ce sont les deux plus jeunes buteurs en finale. 1958-2018, deux époques, deux symboles, de quoi faire de ce tête-à-tête un événement. Événement commercial organisé par un horloger suisse avec mise en scène millimétrée. La rencontre est prévue dans la capitale en fin de journée, comme pour mieux faire durer le suspense et le plaisir.
Merci Frédéric Chapuis. Donc, rencontre aux alentours de 18h dans un grand palace parisien. Ce sera peut-être dans le Lutetia, mais bon, pour l'instant, rien n'est sûr.
Ne dites rien.
Le foot, le sport encore, mais du côté obscur de la force, la violence dans le sport. Il en est question aujourd'hui autour de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Un débat à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. Régulièrement revient la question des violences, des insultes racistes, homophobes. Pour vous donner une idée, 10 000 matchs de foot amateurs ont dégénéré la saison dernière, mais il paraît que c'est moins pire qu'avant, c'est ce que dit tout au moins Jean-Pierre Mougin, il est président de l'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play.
En 2018, il y a 1,8% de matchs à incidents. Vous allez me dire 1,8%, ça paraît faible, mais c'est vrai quand on compte le nombre de matchs de football, cela fait quand même beaucoup de matchs avec incivilité, avec violence. Et donc voilà, ce pourcentage est en train de se réduire grâce aux actions de la Fédération française de football. On en parle assez peu, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Les incivilités dans le football sont en train de se réduire grâce aux actions fortes de formation en particulier, mais également la mise en place de ce qu'on appelle le carton vert pour justement valoriser les attitudes positives sur les matchs de football.
Voilà, ça c'est la version optimiste. En tout cas, ce qui n'est pas la version optimiste, ce sont les transports aujourd'hui. Le trafic est interrompu sur le RER B entre Parc des Expositions et Charles de Gaulle. Et ce sera jusqu'à 16h pour cause de panne de signalisation. Des perturbations sur le RER A aussi à cause d'un problème sur une cathéter. Et puis ce matin, sur une caténaire. Et puis ce matin, on a enregistré un pic de 510 km de bouchons en Ile-de-France. Vous pouvez suivre toutes les infos sur le PC Mobilité de France Bleu.
Alors, c'est en ce moment la 14e semaine nationale du don de moelle osseuse.
Alors, la moelle osseuse, c'est dans les os, hein, ne pas confondre avec la moelle épinière. Et c'est dans la moelle osseuse que se fabriquent les cellules sanguines. Le don d'un petit peu de moelle osseuse, qui se transforme d'ailleurs, qui se reforme en quelques heures, eh bien, ça permet de sauver des personnes atteintes de leucémie, par exemple. Et il semble, d'après l'Agence de la biomédecine, que les femmes donnent plus facilement que les hommes, juste 35% d'hommes inscrits sur les listes de donneurs, d'où cette campagne pour recruter des jeunes hommes. Hier, près de la bibliothèque François Mitterrand, il y avait un gros matelas gonflable dans lequel il fallait sauter. Reportage.
Si vous êtes capable de sauter de 7 mètres, vous êtes capable de donner votre moelle. Voilà le message de l'Agence de la biomédecine aux hommes et ça marche.
Ah, moi je suis prêt, il n'y a pas de souci, ouais. Vous pouvez compter sur moi. Hein.
Jacques, 30 ans, s'est inscrit comme donneur.
C'était vraiment pour les victimes et pour le saut, quoi. Déjà j'avais envie de sauter et sauver une vie dans la foulée, quoi.
Petit problème.
Si, je suis douillé quand même.
Et pourtant, ça ne sert à rien de s'inquiéter, le docteur Michel Villemur.
Non, ça ne fait pas mal. Dans la plupart des cas, donner sa moelle osseuse, c'est comme si on faisait un don de plaquettes. On est piqué dans le bras, voilà. Donc ça dure 4 heures, mais ça ne fait pas mal.
Alors, c'est vraiment pire de donner sa moelle que de sauter de 7 mètres ?
C'est pire, hein. Je suis prêt à le faire, mais je préfère sauter.
Bon, tant mieux Jacques, parce que le docteur Evelyne Marie, directrice des prélèvements, a besoin d'hommes comme vous sur son registre.
Les hommes ne développent pas les anticorps que les femmes développent au moment des grossesses. Du coup, les médecins greffeurs, quand ils ont un choix entre deux donneurs, ils préfèrent prendre des hommes parce qu'il n'y a pas ces anticorps et du coup, les réactions immunologiques sont moins compliquées. La gestion de la greffe chez le patient est plus simple.
Voilà messieurs, maintenant c'est à vous de faire le grand saut et de vous inscrire.
Voilà, l'objectif cette année, recruter 2300 donneurs supplémentaires en Île-de-France.
Le Conseil de Paris est réuni jusqu'à demain avec au programme l'emploi, la mobilité, le free floating et justement la lumière.
Oui, la lumière, la question de la lumière portée cette fois-ci par les radicaux de gauche. Un plan lumière pour Paris, une lumière pour embellir la ville, pour la sécuriser aussi et moins polluer, Laetitia Eveline.
Elle fait partie de notre quotidien. Parfois fluo, parfois blafarde ou tamisée, la lumière nous accompagne autant dans les rues qu'au travail, dans les commerces ou les gares. Les radicaux de gauche voudraient donc une unité lumineuse pour Paris, une délibération portée par la présidente du groupe, Laurence Goldgrab.
Nous proposons un comité de la lumière à Paris pour avoir plus de cohérence dans l'éclairage, puisqu'à l'heure actuelle, il y a divers acteurs concernés, la ville, l'État et la région, la SNCF, la RATP, les grands magasins, tous les commerces.
Cette délibération sera soutenu par les communistes, mais sous conditions, selon le président du groupe Nicolas Bonnet-Oulage.
Il y a un débat, c'est sur la publicité lumineuse. Et là, par contre, nous, on est contre. Et on considère qu'il faut réduire la place des publicités lumineuses la nuit.
Réduire les publicités lumineuses la nuit et contrôler davantage les enseignes et les entreprises qui laissent leurs ampoules allumées. Maud Gatel, vice-présidente du groupe UDI Modem au Conseil de Paris.
La pollution lumineuse, c'est au même titre que la pollution atmosphérique, une pollution qui a un effet tangible sur la santé des Parisiennes et des Parisiens. Et donc, nous souhaitons que la ville de Paris agisse en exigeant que les commerces, les bureaux éteignent leur lumière.
Et les horaires sont fixés par décret. Les magasins et entreprises doivent éteindre à 1h du matin, dernier délai, ou s'ils restent ouverts plus tard, 1h maximum après la fermeture.
Voilà, reportage Laetitia Eveline.